L'espace démocratique se réduit-il en France? Poursuite des multinationales contre les associations, attaque des médias par les politiques, criminalisation des mouvements sociaux, mesures antiterrorisme qui peuvent être liberticides, les questions de la liberté d'expression et du droit à l'information sont de plus en plus prégnantes. Et l'actualité sociale de ces dernières semaines nous le rappelle fortement. Cet espace démocratique menacé a fait récemment l'objet d'un colloque. C'était le 14 janvier à Paris. Bonjour Léna Bauer.
Bonjour.
Responsable de la communication à la Fondation France Liberté. Alors vous avez participé à ce colloque sur la reconfiguration des espaces démocratiques. Il y a donc une vraie menace sur la liberté d'expression en France?
Oui, aujourd'hui, il y a des menaces qui pèsent sur la liberté d'expression en France. On peut penser à des menaces de types différents, par exemple aux usages liberticides qui ont été faits des outils antiterrorisme, avec ces écologistes qui ont été empêchés de manifester en étant assignés à résidence dans le cadre de l'état d'urgence. Mais on peut penser également donc, à ces procédures bâillons, donc c'est les multinationales qui sont de plus en plus nombreuses à attaquer en justice ceux qui les critiquent. Et je pense également à la loi sur le secret des affaires qui a été votée l'année dernière et qui menace les lanceurs d'alerte et les journalistes. Donc on voit qu'aujourd'hui les menaces sont multiples et que les démocraties sont questionnées à la fois sur la restriction de leurs droits fondamentaux, mais également sur le rétrécissement des marges de protestation.
Alors, quels sont les types d'attaques qui sont les plus fréquentes et les plus visibles?
Alors, je ne sais pas quelles attaques sont les plus fréquentes, mais on sait que, par exemple, les poursuites bâillons sont de plus en plus courantes en France. La Fondation France Liberté en a elle-même été victime. Elle a été accusée de diffamation par Veolia, même si cette procédure s'est soldée par une relaxe de la Fondation au bout de 2 ans de procédure. Mais il y en a plein d'autres actuellement. Je pense à Vinci, par exemple, contre l'association Sherpa, à Bolloré contre le journal Bastamag, ou à nouveau Bolloré contre la journaliste Fanny Pigeot de Mediapart. Il y a environ une quarantaine de personnes qui sont poursuivies par Bolloré aujourd'hui dans une vingtaine de procédures différentes. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose de courant et c'est pas une problématique qui est spécifique à la France. Puisque, par exemple, aux États-Unis, il y a un groupe forestier qui s'appelle Résolu qui a attaqué Greenpeace en réclamant 300 millions de dollars de dommages et intérêts, même si ces demandes ont été heureusement rejetées par la justice.
Alors on a vu bon nombre de politiques s'en prendre ouvertement aux médias, des politiques de tous bords, hein, du président de la République à des responsables de partis. Est-ce que c'est du parler vrai, du sans langue de bois, ou alors est-ce que ce sont des dérives inquiétantes?
Oui, il y a vraiment un climat très inquiétant pour les médias aujourd'hui, mais qui touche vraiment de diverses façons les médias. Par exemple, je parlais de la loi sur le secret des affaires qui a été votée l'année dernière en France et qui prétend protéger les entreprises de l'espionnage industriel. Mais on voit bien que, en fait, cette loi bride la capacité d'investigation des médias. Il y avait une revendication de limiter le champ d'application de ce secret des affaires aux acteurs économiques, puisque le secret des affaires ne devrait s'appliquer qu'aux relations commerciales et non pas au journalisme. Mais cette revendication a été complètement rejetée. Et aujourd'hui, cette loi est une véritable restriction au droit d'informer. Donc, ça s'en sert dans un contexte qui est vraiment très difficile pour les médias aujourd'hui en France. Et on peut dire que, de manière générale, il y a de plus en plus de contournements de la loi sur la liberté de la presse. Mais heureusement, il y a certaines personnes qui luttent contre ces dérives. Je pense notamment au collectif qui s'appelle « Informer n'est pas un délit » et qui rassemble des journalistes qui défendent la liberté d'expression.
Alors, les attaques se portent aussi du politique sur les mouvements sociaux. Est-ce qu'il y a une vraie criminalisation de ces mouvements?
Oui, il y a un exemple qui est vraiment frappant là-dessus, c'est l'acharnement contre les militants à Bure, qui sont ces militants qui luttent contre le projet d'enfouissement de déchets radioactifs à plus de 500 mètres sous terre. Il y a déjà eu plus d'une cinquantaine de procès contre ces personnes qui s'opposent au projet. Donc ça inclut des centaines de mois de prison avec sursis distribués, des années de prison ferme, des interdictions de territoire, des milliers d'euros d'amende. Il y a même eu récemment des gardes à vue, une trentaine de gardes à vue, dont celle de l'avocat. Une enquête pour association de malfaiteurs a été ouverte, un escadron de gendarmes mobiles s'est installé sur place. Donc on voit que c'est une criminalisation de cette lutte. Les habitants de Bure et des alentours sont surveillés, sont suivis, fichés, ils sont contrôlés parfois plusieurs fois par jour. Donc c'est un exemple extrême de criminalisation d'une lutte qui a vraiment pour but d'asphyxier la contestation.
Alors vous l'avez évoqué, les ONG sont aussi victimes de cette remise en cause de la liberté d'expression de la part des multinationales. Elles sont de plus en plus friandes de poursuites bâillons. Que recherchent-elles avec ces poursuites?
Alors les multinationales cherchent avant tout à intimider et à faire taire les voix critiques. Donc ils attaquent en justice vraiment ceux qui les dérangent sous diverses accusations. Et ça peut être n'importe qui, des professeurs d'université, des ONG, des avocats, des lanceurs d'alerte. En fait, tous ceux qui dénoncent au grand public les violations des droits humains et les violations environnementales. Donc c'est un peu un renversement du sens de l'accusation. Et on estime aujourd'hui qu'en France, c'est environ 90% des poursuites Bayon intentées pour diffamation qui n'aboutissent pas. Donc on voit bien que gagner en justice n'est vraiment pas le but de ces multinationales. L'objectif, c'est d'affaiblir psychologiquement, financièrement, les personnes ou les organisations qui sont visées. Ça cherche à confisquer le débat public aux dépens de l'intérêt général.
Alors, il y a un collectif « On ne se taira pas » qui a été créé il y a 2 ans. Est-ce qu'il a une véritable portée ? Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience ?
Oui, c'est le but du collectif, en tout cas. On espère, pendant toute l'année 2018, le collectif « On ne se taira pas » a essayé de sensibiliser, de se faire connaître cette question. Donc, on est passé par plusieurs outils de sensibilisation, des vidéos, des tribunes dans les médias. On s'est doté d'un compte Twitter et il y a un site internet également, onneseterrapas.org, que je vous invite à visiter. Et puis, le collectif a commencé l'année 2019 en organisant ce colloque sur la reconfiguration des espaces démocratiques avec des intervenants très divers, aussi bien des chercheurs que des militants, des journalistes. Et c'est vraiment cette approche croisée qui est essentielle, de croiser les approches universitaires militantes pour créer du savoir et renforcer la lutte contre ces dérives.
Le détail de ce colloque sur les reconfigurations des espaces démocratiques est à retrouver sur france-liberté.com. Merci Léna Bauer.
Merci beaucoup.
Monde solidaire à retrouver sur fréquence-terre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre.